Chapitre 8. Laissons pour un moment Ciccio dans la compagnie peu chrétienne où il s'était introduit avec tant d'avantages, et revenons à la pauvre Cangia, toujours assise sur le toit de la maison paternelle. Depuis le départ de son amant, elle s'ennuyait comme Calypso. Son inquiétude lui représentait le petit chevrier, faisant l'admiration des grandes villes et aspirant de l'amour à toutes les riches héritières de Palerme. Les bonnes gens du voisinage, en voyant la fille de Mastre André dans son boudoir aérien, les cheveux ornés de giroflées sauvages, le visage rêveur et mélancolique, haussaient les épaules avec compassion et disaient, dans leur style poétique, que c'était grand dommage qu'une si belle personne fut mariée avec le chagrin. On donnait avis au notaire de la demi-folie qui travaillait visiblement sa fille, et on engageait en place publique « Ah, si un tel malheur m'arrive, il faudra mourir !» La jeune fille saisit entre ses petites mains la grosse main de Don Trajan. « Écoute-moi, reprit-elle avec passion. Tu m'as ruiné, tu dois me secourir. Au milieu de la douleur qui m'accable, je me félicite encore d'avoir découvert la vérité. Je ne puis souffrir que Ciccio me croie infidèle, ni qu'on l'accuse de m'avoir volé ce que je lui ai donné volontairement. Il faut que je sois à ses côtés pour répondre à ses juges. Je veux qu'on m'arrête avec lui. Conduis-moi dans les montagnes. Courons à sa recherche. Prépare tes mules et partons. » Hélas, signorina, courir, partir, cela est bientôt dit. Vous êtes une enfant, et si je vous enlève ainsi à votre papa, j'aurai des démêlés avec les robes noires. Cependant, je voudrais vous satisfaire. Vous voyez bien, là-bas, ces deux étrangers qui ont l'air de dormir debout. Ce sont des Anglais, et je leur propose une excursion dans les montagnes. L'un veut aller en Lettiga et l'autre sur un mulet. S'ils acceptent ma proposition, je vous donnerai la seconde place dans la Lettiga et je feindrai de croire que vous êtes de leur compagnie. La Lettiga ne contient que deux personnes assises en face l'une de l'autre. Malheureusement, depuis une heure que je prêche ces deux statues, il ne leur est pas sorti quatre paroles du gosier. Ne bougez, je vais faire un dernier effort. Le vieux Trajan s'approcha, le chapeau à la main, d'un Anglais qui fumait son cigare sous le portique de l'auberge del Sol. Eh bien, signor, dit-il, avez-vous réfléchi ? Avez-vous enfin compris que vous ne trouverez jamais une occasion meilleure de visiter nos superbes montagnes ? Bonne Lettiga, excellente mule, brave guide, Trajan, c'est mon nom. C'est faire la cuisine pour voir à tout, choisir les gîtes pour le dormir et le rinfresco, prédire comme un almanach le beau et le mauvais temps, cirer les bottes, allumer le feu, déterrer de la neige en plein midi pour rafraîchir les boissons. » L'Anglais, qui n'entendait pas un mot d'italien, regarda le muletier d'un air soupçonneux et appela dans sa langue son compagnon de voyage qui se nettoyait les ongles avec le plus grand calme. Don Trajan répéta vivement sa harangue, dont le second Anglais fit au premier une traduction abrégée. « Cet homme sait-il faire le thé ?» demanda l'Anglais qui fumait un cigare. « Mais il n'a point parlé de thé, » répondit l'Anglais, qui se curait les ongles. « A-t-il dit si l'on pouvait mettre dans la Lettiga, sans en être incommodé, deux parapluies et deux cannes-fauteuils ?»« Non, il n'en a rien dit sur les parapluies et les cannes-fauteuils. »« Alors je ne pars point, ni moi non plus. » Les deux Anglais recommencèrent paisiblement, l'un à fumer son cigare et l'autre à se curer les ongles. D. D'autres agents, avec cette patience infatigable que donne la fourberie, demeura immobile et le chapeau à la main en face des deux étrangers. Tout à coup, son regard de lynx perça les écorces imperméables et saisit au vol la pensée qui se traînait comme une tortue dans ses cervelles glacées. Sans faire un mouvement, le vieux muletier dit à voix basse à la jeune fille « En route, je vois dans leurs yeux que nous allons partir. » En effet, l'Anglais qui fumait son cigare appela celui qui se curait les ongles et lui dit « On pourrait demander à cet homme s'il sait faire le thé et s'il y a de la place dans la lettiga pour les deux parapluies et les deux cannes-fauteuils. » Le second Anglais traduisit comme il put en italien cette importante question. « Altro !» s'écria Trajan. « Je sais faire le thé, le café, le chocolat, la soupe, l'omelette et le riz au piselli, mieux que le cuisinier du Saint-Père. Quant aux cannes et ombrelles, je vous prouverai qu'il en peut tenir 3 douzaines dans ma lettiga, sans qu'il y paraisse. » « George, dit l'Anglais qui se curait les ongles, qu'en pensez-vous ? Nous pouvons partir, William, répondit celui qui fumait son cigare, à moins pourtant qu'il n'y ait des brigands dans les montagnes. » Lorsqu'on parla de brigands au muletier, il ouvrit de grands yeux étonnés, comme s'il n'eût jamais entendu ce mot-là. Cette ignorance parut aux deux étrangers la meilleure garantie de la sûreté des routes. Sir George ne demanda que le temps de lacer ses souliers de voyage, et Sir William ne réclama qu'un quart d'heure de loisir pour fermer son nécessaire de toilette. Kangia était partie pour chercher son petit bagage et tout ce qu'elle possédait en argent et en bijoux. D'autres agents chargea sur le dos d'un mulet les coffres, boîtes, sacs et cartons des deux voyageurs. Il était 9 heures du matin. Le grand café de la rue Maestranza se remplissait de monde et Master André, en personne, y jouait à la bassica en buvant une limonade, lorsqu'une jeune fille, enveloppée jusqu'aux yeux dans sa mante noire, passa tout auprès de l'illustre notaire. « Ah, voilà, dit un jeune homme, une fière topatelle qui ne va pas à ce qu'on fasse. »« Elle va au bain, dit un autre, puisqu'elle porte sous sa mante un paquet. » De ce pas-là et avec cet air agité, dit un troisième. Oh, je gagerais bien que c'est à la bourre qu'elle va faire ses dévotions. Confesse, bain à bourre, murmura Master André en abattant ses cartes. Moi, j'ai gagné la partie et je vais à mes affaires et à ma boutique comme la fine topatelle. D'autres agents avaient achevé les préparatifs de départ. Sir William avait enfourché son mulet et prenait déjà les devants. Sir George, grimpé sur une chaise, mettait un pied dans la lettiga et le retirait aussitôt, craignant qu'un mouvement des mules ne le fît tomber avant qu'il pût s'introduire dans cette boîte. Il maugréait entre ses dents contre cette façon de voyager du temps de Charles Quint et soupirait en pensant au chemin de fer et aux routes à la Macadam. D'autres agents mit fin à ses hésitations en le poussant dans la lettiga comme un paquet. Le vieux muletier souleva ensuite Angelica par la taille et l'installa, sans dire mot, à la seconde place, en face de l'Anglais, stupéfait de tant de hardiesse. Un coup de perche dans le flanc des mules et le « Ouah !» de Trajan firent partir l'équipage. Il faut avouer que la lettiga est un véhicule peu agréable. Si les deux mules qui la portent ne marchent point au même pas, il résulte de ce défaut d'ensemble un double mouvement d'oscillation que tout le monde ne peut pas endurer. En outre, si l'une des mules vient à tomber, il y a beaucoup de chances pour que la boîte s'échappe de ses deux supports. Et ce déraillement n'est pas sans danger quand il arrive au bord des précipices ou des torrents. Cependant, les accidents sont rares grâce aux jambes excellentes des mulets et à l'expérience des guides. L'anglais fut d'abord distrait de son indignation par la brusquerie du départ et le ballottement de l'Alette Tiga. Mais à la porte de la ville, Sir George sortit sa tête par la portière et appela de toutes ses forces son compagnon de voyage. Il se plaignit amèrement de l'audace de Trajan, qui avait introduit une seconde personne dans la Alette Tiga sans permission. Sir William, transporté de fureur à cette découverte, se tourna vers le muletier en le menaçant de sa canne. « Pourquoi, lui dit-il en italien, avez-vous donné une place dans cette Alette Tiga ?»« Regardez donc, répondit Trajan, les beaux yeux de cette jeunesse, et dites un peu si vous n'êtes pas fortuné de voyager dans cette compagnie-là. Il n'y a ni beaux yeux ni jeune fille qui tiennent, reprit l'anglais. Nous avons payé et il nous faut la Alette Tiga entière. Signor, répliqua Trajan, ne vous fâchez pas. J'ai voulu prouver à vos excellences qu'il y avait de la place pour bien autre chose que deux parapluies et deux cannes-fauteuils. Vous êtes un insolent et un fourbe, s'écria l'anglais. Nous avons payé, faites descendre cette personne. Comme il vous plaira, signor, dit Trajan, mais je vous avertis que cette jeune fille nous est nécessaire. Vous vous êtes décidés à partir trop tard pour arriver aujourd'hui à Catane. Nous serons obligés de passer la nuit dans un village ou au Fondaco della Pelma, espèce de grange où l'on ne trouve pas de vivres. Alors j'achèterai des volailles et d'autres provisions en route. La petite fille plumera les poulets et dressera le couvert, tandis que j'allumerai le feu. Elle sera mon aide de cuisine. Elle changera les assiettes et vous servira le thé, car je pourrais tout faire à la fois. Si nous la laissons à Syracuse, vous attendrez le dîner pendant une heure ou deux, et les plats ne suivront pas sans de longs intervalles. Si vous arrachez un bouton de votre gilet, ou si vos bretelles viennent à se rompre, la petite a du fil et des aiguilles pour accommoder la chose. Une femme est utile en voyage, et je sais bien ce que je fais. « Je crois que cet homme a raison, » dit Sir William. « Sans nul doute, » reprit Trajan, « votre seigneurie aime-t-elle la ricotta, ce fromage blanc, si estimé dont tous les étrangers se régalent en Sicile ?»« J'aime beaucoup la ricotta. »« Eh bien, cette jeune fille sait la faire admirablement, et dans les montagnes, où nous aurons du lait excellent, elle vous préparera des fromages à vous lécher les doigts. George, dit Sir William en anglais, nous pouvons garder la jeune fille. Elle changera les assiettes et nous fera de la ricotta. Sir George rentra dans la Alette Tiga sans insister davantage et se contenta de lancer à sa compagne des regards sévères où le reproche était tempéré par la pensée du fromage blanc et des assiettes changées. Les deux routes de Syracuse à Catane, si on peut appeler route des champs et des déserts, passaient en 1842 l'une par l'Entini et l'autre par l'Agnone. D'autres agents, qui n'étaient pas sans inquiétude au sujet de l'équipée de Cangia, imagina de conduire ces Anglais par un troisième chemin qui n'eut pas de peine à repréviser. C'était un moyen sûr d'échapper aux gendarmes en cas de poursuite. Il dirigea la petite caravane sur Mitilli et s'arrêta le soir dans un village appelé Bagnara, situé au-delà des marais de l'Antini. À force d'industrie, Le muletier vint à bout de préparer un souper mangeable. Les deux Anglais eurent la ricotta qu'ils désiraient, du vin de Marsala, des lits un peu durs mais presque propres, et Cargia leur servit les plats et les assiettes. D'autres agents, craignant que l'ordinario n'apportât dans la nuit un ordre d'arrêter à Catane la belle fugitive, trouva les meilleures raisons pour persuader à ses voyageurs de ne pas entrer dans cette ville. Son éloquence et sa logique démontrèrent clairement qu'il était plus agréable et plus prompt de laisser Catane sur la droite pour marcher vers Paterno et Stilla, où commencent les montagnes. Quand il eut réussi à faire accepter cet arrangement, le vieux muletier sortit de l'osteria et se rendit à la nuit hors du village. Du bout de sa perche, il frappa doucement à la fenêtre d'une maisonnette couverte en chaume. Un paysan ouvrit la lucarne et demanda qui était là. « Ave Maria !» dit Trajan à voix basse. « J'ai de la pâte étrangère avec moi. » « Déjà riche ?» demanda le paysan. « Oui, riche, assez. Le bagage est copieux, les malles sont pesantes. Alors je vais envoyer Bernardino allumer du feu sur la colline. Il n'y manque pas, Don Polyphème te gardera scrupuleusement ta part du butin. Oh, dites-lui que j'irai chercher cette part dimanche à Saint-Philippe et bonne chance. » D'autres agents cueillirent des citrons sur le bord du sentier et en rapporta une provision à l'osteria afin d'expliquer la courte absence qu'ils venaient de faire. Les deux Anglais, aux prises avec le Marsala, causaient ensemble sur un banc de bois. Et Colgia dormait dans la chambre de la fille du cabaretier. Vers 9 heures du soir, Trajan vit plusieurs feux allumés sur les montagnes dans la direction de Stilla. Il souhaita une heureuse nuit à ses voyageurs et se coucha dans la mangeoire de ses mules, où il s'endormit bientôt d'un sommeil à faire envie au plus honnête homme du monde. Chapitre 9. La caravane se remit en route le lendemain de grand matin, Sir George enfoncé dans sa lettiga et ne disant mot, Sir William sur son mulet et ne pensant à rien, Cangia rêvant à ses amours, et le muletier chantant des airs du pays, accompagné par les clochettes de l'équipage. On s'arrêta pour déjeuner à Paterno, et on laissa Stilla sur la droite pour arriver plus tôt à Saint-Philippe d'Argyre. Vers le milieu du jour, nos voyageurs entrèrent dans ce pays sauvage où Ciccio et sa mère avaient passé la veille. À la vue de cette végétation puissante et de ces solitudes où la nature mettait à nu ses charmes comme Diane au bain, les deux Anglais éprouvèrent peut-être un semblant d'émotion, car Sir William, qui n'avait encore rien dit, s'écria « Très joli !» À quoi Sir George répondit avec beaucoup de justesse « Très joli en vérité !» Dans un défilé étroit, Don Trajan posa le bout de sa perche devant le nez de la première mule. Le convoi s'arrêta, et le muletier, après avoir fait une douzaine de signes de croix, tourna vers Sir William un visage si bouleversé que l'Anglais en conçut de l'inquiétude et demanda s'il y avait quelque danger. Sans pouvoir répondre, Trajan montra du doigt une petite esplanade éclairée par le soleil et sur laquelle on voyait une chèvre jaune, dont les cordes brillaient comme de l'or. « Eh bien, » dit Sir William, « Signor, la chèvre, hélas, c'est un signe d'accident dit le muletier en bégayant. « Comment l'entendez-vous ? » demanda l'Anglais. « Est-ce un présage, une superstition, une chose surnaturelle ?»« Oh, surnaturel s'il en fut, » reprit Trajan. « Superstition, si vous voulez. » Mais quand on rencontre la chèvre jaune, on n'arrive pas à Saint-Philippe pour une cause ou pour une autre. Signor, il convient de retourner en arrière. Si nous retournons en arrière, dit l'Anglais, il est certain que nous n'arriverons pas à Saint-Philippe. Nous avons fait avec vous un contrat et nous avons payé d'avance la moitié du prix. Vous devez marcher. « Jésus !» s'écria le muletier. « Voilà comme sont tous ces étrangers. Ils ne croient à rien, ils n'ont point de religion. Ils ne font leur prière ni soir ni matin, et quand le ciel les avertit d'un malheur, ils vous ordonnent de marcher. » D'autres agents tremblaient de tous ses membres, et son masque surpassait en grimaces ceux du Pancras et du Pascariello, ces types napolitains de la poltronnerie. Sir William en perdit son sérieux. « George, cria-t-il, voyez donc la plaisante mine de notre guide !» La face de Sir George sortit de la Lettiga, et les deux Anglais firent un de ces rires homériques dont retentissaient les tavernes de Londres. « Vous le voulez, Excellence, dit Trajan, ne vous en prenez qu'à vous-même de ce qui arrivera. Nous tomberons dans quelque précipice, nous perdrons nos bagages, mes mules périront, je serai ruiné, et si vous en êtes quitte pour une jambe cassée, vous devrez un cadeau à la Madone des muletiers. Tout cela parce que nous avons vu une chèvre, dit Sir William. La belle finesse, répondit Trajan. Je vois aussi bien que vous que c'est une chèvre. Mais si l'on vous dit que cette chèvre est ensorcelée, qu'elle a été arrêtée deux fois et qu'elle a échappé aux soldats, blessé un gendarme, enlevé son maître dans les airs, dansé sur les places publiques, ordonné des remèdes aux malades et prédire l'avenir, vos excellences riront sans doute encore. » Les deux Anglais rirent en effet, et de si bon cœur que leurs grosses poitrines en tremblaient. « Allez en avant, muletier, » répéta Sir William, « et ne craignez rien. Nous paierons le dégât s'il arrive malheur. Et le degrade de mon âme et de mon salut si je meurs, nous paierons tout. À la bonne heure, alors je ne résiste plus. » D'autres agents releva sa perche et le convoi se remit en marche. Au bout de 100 pas, la chèvre jaune apparut sur un autre point du paysage. On la vit traverser un sentier, descendre le long d'un torrent et sauter par-dessus des buissons. Trajan récitait ses litanies en poussant de gros soupirs. Mais comme ça, William lui criait de marcher toujours, il n'osait s'arrêter. On arriva ainsi jusqu'au milieu du défilé. Tout à coup, le muletier se jeta la face contre terre, et cette fois, les deux Anglais firent des grimaces presque aussi belles que celles de Trajan. De chaque côté du sentier où grimpait le convoi étaient deux hommes mal vêtus, la carabine sur l'épaule, le visage couvert d'un crêpe noir, à travers lequel on ne voyait que le blanc de leurs yeux. À 10 pas de la Lettiga, sorti des broussailles, une espèce de colosse, accoutré comme ses compagnons, qui s'avança au-devant des voyageurs, en cherchant à se donner des airs de civilité auxquels sa sauvage personne avait grand peine à se prêter. Très illustre seigneur, dit-il en italien presque pur, je vous supplie de ne pas vous effrayer. Nous n'en voulons, mes amis et moi, qu'à votre argent et à vos bagages. Si vous êtes complaisant, je jure Dieu qu'il ne vous sera pas arraché un seul cheveu de la tête. Ayez seulement la bonté de mettre pied à terre et de vider vos poches. « Au nom du ciel !» s'écria Trajan. « Messieurs les Anglais, ne vous avisez pas de résister, vous vous feriez tous massacrer. » Mais Sir William releva fièrement la tête et apostropha le brigand du ton le plus énergique. « Si vous touchez à nos bagages, dit-il, je me prendrai à l'ambassade d'Angleterre et vous serez poursuivi et puni comme vous le méritez. » « Retirez-vous, brigand, je vous défends d'approcher de moi. »« Oh, puisque vos seigneuries le prennent sur ce ton, » répondit Polyphème, car c'était lui, « je suis dispensé des égards et de la politesse, et je vais exercer mon métier dans toute sa rigueur. » En parlant ainsi, le chef donna un coup de sifflet. Aussitôt, les quatre bandits postés aux deux côtés du chemin s'élancèrent vivement sur le mulet au bagage, en détachèrent les malles et cartons qu'ils emportèrent sur leurs épaules. Deux des voleurs saisirent ensuite Sir William par le bras, tandis qu'un troisième lui ôtait son habit et son gilet, s'emparait de sa montre et vidait les poches du pantalon. En un tour de main, l'Anglais récalcitrant se trouva en manche de chemise, tant les brigands étaient d'habiles valets de chambre. La toilette de Sir George fut achevée avec promptitude, ses poches retournées, sa montre et ses bagues enlevées. La lettiga fut fouillée, mais on y laissa les cannes et parapluies comme des meubles inutiles, ainsi qu'un étui de cuir contenant un drapeau roulé dont les bandits n'avaient que faire. C'était le pavillon de Sa Majesté britannique. Sir William ne voyageait point sans porter avec lui les couleurs de son gouvernement en manière de supplément au passeport. Sir George, dans un mouvement d'indignation, adressa aux voleurs un discours plein de violence où il les traita de bélites et de canailles, mais comme il s'exprimait en anglais, ses frais d'éloquence furent perdus. Quant au vieux Trajan, il poussait des gémissements à émouvoir les pierres et se lamentait sur sa réputation compromise de guide heureux et de brave muletier. Don Polyphème, ennuyé de ses cris, le frappa d'un coup de crosse de fusil en lui ordonnant de se taire, et Sir William, touché de sa douleur, essaya de le consoler en lui promettant une gratification et un certificat de bonne conduite malgré cette fâcheuse aventure. Pendant tout ce désordre, Kangia, qui avait compris la comédie jouée par le guide, cherchait les yeux sur cher Ciccio, annoncé par l'apparition de la chèvre jaune. Ne le voyant pas parmi les bandits, elle sauta légèrement hors de la lettiga et s'approcha de Don Polyphème. « Seigneur capitaine, lui dit-elle, n'avez-vous pas dans votre troupe un gentil garçon appelé Ciccio, nouvellement arrivé dans ces montagnes avec la vieille Barbara, sa mère ?» « Oui, dame, un bel enfant, » répondit le brigand. « Vous êtes la fille de Mastre André, le notaire, et vous venez tout exprès de Syracuse pour dire à Ciccio que vous l'aimez encore. »« Oui, précisément, seigneur capitaine. »« Eh bien, allez là-bas, derrière ce gros rocher. Vous y trouverez votre amoureux. » Gangia revint à la lettiga, prit son petit paquet de nippes, rajusta sa mante de l'air d'une personne parvenue au terme de son voyage et courut en sautillant vers le quartier général des bandits. Les deux Anglais, complètement dévalisés, étaient remontés, l'un sur son mulet, l'autre dans la Lettiga, et Trajan allait faire partir le convoi, lorsque Sir George demanda où était sa compagne de voyage. Bon, ne vous en embarrassez pas, répondit le guide. Les brigands considèrent les jolies filles comme du butin. Je suis fâché, dit Sir William, très fâché, que les voleurs aient enlevé cette petite. Elle préparait bien le thé et servait comme il faut les plats et les assiettes. Trajan fit observer que les brigands ayant emporté la provision de thé, la jeune fille devenait inutile. Cette remarque calma les regrets des deux Anglais. Un coup de perche sur le flanc des bulles mit l'équipage au grand trot, et bientôt le bruit des clochettes s'éteignit dans la direction de Saint-Philippe d'Argyre. Toute autre fille de notaire que la belle Cangia eût éprouvé quelque frayeur dans la compagnie des brigands. Mais l'amour ne laissait pas de place à la peur dans l'âme de notre héroïne. En arrivant derrière le quartier de Roche où l'on avait transporté le butin, Cangia trouva Ciccio et sa mère avec la réserve de la troupe. Le petit chevrier saisit son ami entre ses bras, la jeune fille prit dans ses deux mains la tête de son amant, et tous deux se mirent à pleurer et à parler à la fois, sans prendre garde aux témoins qui les regardaient. « Ingrat, disait Cangia, injuste cœur, tu as douté de ma tendresse, tu m'as cru infidèle, tu t'es laissé tromper par les mensonges des méchants. Vois à quelles extrémités tu m'as poussé. Je devrais te gronder, mais je n'en ai pas le courage, parce que je t'aime trop. » Et je t'aime parce que tu es beau. C'est ce qui fait mon malheur et ma folie. Dieu sait ce qu'on va penser de la pauvre Cangia qui a quitté son père. Moi, je viens partager ta misère et te défendre contre tes juges. Il faudra bien que l'on m'écoute quand j'attesterai que c'est moi qui t'ai donné l'épingle d'argent. Cher Cangia, disait en même temps Ciccio, avec non moins de volubilité. Te voilà donc auprès de moi. En voulant me perdre, mes ennemis ont fait de moi le plus heureux des hommes. Vous ne me quitterez plus. Nous vivrons dans les montagnes avec ces honnêtes brigands et nous chercherons un curé pour bénir notre union. Don Polyphème interrompit Ciccio en lui frappant sur l'épaule. « Oh, mes enfants, dit le capitaine en souriant, vos amours m'intéressent et je regrette de vous ôter vos illusions. Mais nous ne sommes pas autant de Pyrame et Thisbée, ces amants fidèles qu'un lion a dévorés. La fille de Master André, le notaire, ne peut pas rester parmi nous. » « Et pourquoi ? Demanda Cangia. Parce que les fatigues et les dangers de notre profession ne conviennent pas à une signorina élevée dans du coton. Parce que d'ailleurs, elle serait pour nous un sujet d'inquiétude. Vous ne connaissez point les femmes, s'écria la vieille Barbara. Quand l'amour est au fond de leur cœur, il n'y a pas de héros qui puisse les égaler en courage et en patience. La belle, la divine Angelica, cette créature si tendre et si délicate sera brigande comme moi, brigande acharnée, implacable aux Carthaginois. Mais tâchez donc de me comprendre, reprit Don Polyphème. On se console d'avoir été volé, on achète d'autres habits et des bagages neufs. On écrit à sa famille pour avoir de l'argent, mais un père n'oublie pas la perte de sa fille. Il s'adresse aux autorités. Il crie et tempête jusqu'à ce qu'on lui rende son enfant. Et les fantassins viendraient nous redemander ce gibier trop mignon pour des coquins comme nous. La divine Kanchia mangera du pain des brigands pendant 2 ou 3 jours. Je ne lui refuse pas le plaisir de voir son amant, mais il faudra être raisonnable et retourner ensuite chez le papa. Quant au vaillant Chichio, il raffermira son cœur contre les faiblesses de l'amour et triomphera de lui-même, comme Titus, cet empereur d'Orient qui aimait la belle Bérénice et qui eut le courage de s'en séparer. Voilà qui est dit, et silence là-dessus. À présent, mes amis, partageons le butin en tout bien et toute justice. On ouvrit les malles et les bandits se partagèrent les dépouilles des 2 Anglais avec plus de bonne foi que des héritiers accompagnés du juge de paix. On trouva une somme considérable en pièces d'or de Naples et Ciccio reçut pour sa part 12 ducats. On procéda ensuite à la distribution du linge et des habits. Le petit chevrier eut encore des chemises, des mouchoirs et un habit noir qui avait figuré le mois précédent à Kiala dans le salon de l'ambassade d'Angleterre à Naples. L'un des brigands prit des objets de toilette et autres articles inutiles pour les aller vendre pendant la nuit à un receleur domicilié à Stylia. Le partage achevé, Don Polyphème prit la parole. Seigneur cavalier, dit-il, quoique les autorités de Saint-Philippe ne soient pas à craindre, il est sage, après une expédition comme celle-ci, de changer de théâtre. Nous irons coucher ce soir à Leonforte dans le cœur des montagnes, et notre premier exploit aura lieu sur la route de Messine à Palerme. Maintenant, faites avancer les bêtes en somme pour transporter le butin et qu'on donne un âne à la divine fille du notaire Mastandré. La belle Kanchia monta sur l'âne si galamment offert par le bandit et on se dirigea vers Leonforte. Cette petite ville est située au point de jonction des 2 grandes chaînes qui s'étendent l'une vers Messine et l'autre vers le cap Passaro, en formant un vaste triangle entre les côtés duquel l'Etna se trouve embrassée. Une 3e chaîne part du même sentier pour descendre vers Palerme et Trapani. Ces montagnes ont servi de refuge aux Siciliens poursuivis ou insurgés sous les différentes dominations des Arabes, des Normands ou des Espagnols. Aussi Don Polyphème et ses amis y dormaient-ils avec sécurité loin de la police de Naples. Des paysans que la bande avait affiliés reçurent en dépôt le butin et donnèrent des lits aux brigands pour la nuit. Kanchia partagea la chambre de la fille d'un bûcheron et Ciccio coucha sur la paille avec la fidèle Guetta étendue à ses pieds. Avant de s'endormir, le petit chevrier jeta un regard d'admiration et de crainte sur l'habit noir dérobé aux Anglais et sur ses pièces d'or. « Mais j'ai tout ce que mon cœur a désiré, dit-il en soupirant. Je possède un bel habit et de l'argent dans ma poche. Je repose sous le même toit que ma maîtresse, mais, hélas, tout cela, maîtresse, habit noir et argent, c'est du bien volé. »